Bâtiment avec Marjolaine Meynier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
Bonjour à vous qui nous retrouvez sur Bâti Radio. Ravi que vous soyez passé un nouveau bâtiment avec moi. Nous allons parler d'actualité du bâtiment, comme d'habitude, parler un petit peu de prospective, d'aménagement du territoire, forcément, de construction, des révolutions du neuf, de la rénovation, de développement durable et de protection de l'environnement. Sur cette émission, vous le savez, c'est celle où on fait le pari que ce sont vos filières qui doivent relever tous les défis que nous avons, notamment pour nous sortir de l'impasse climatique dans laquelle on s'est fourré. Donc, sans transition, j'accueille mon invité du jour, Pierre-André de Chalandard. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie que vous soyez avec nous. Ancien inspecteur des finances, vous êtes entré chez Saint-Gobain en 1989. Après avoir gravi tous les échelons, vous avez été nommé directeur général en 2007, puis président-directeur général de ce groupe en 2010, fonction que vous avez exercée jusqu'en juin 2021. Depuis juillet 2021, vous êtes président du conseil d'administration de la compagnie de Saint-Gobain. C'est sacré parcours, sacré CV. Comment est-ce que vous êtes tombé dans cette marmite du bâtiment? Comment vous avez démarré?
Alors dans le bâtiment, d'abord, j'y suis tombé un peu, j'allais dire, au milieu de Saint-Gobain, puisque quand je suis rentré dans Saint-Gobain, on faisait beaucoup de métiers, et pas que du métier du bâtiment. Et moi, j'ai commencé plutôt dans des métiers industriels. J'étais aux États-Unis dans les abrasifs. Et en fait, je suis tombé dans le bâtiment en Angleterre. Donc moi, ma connaissance de première, j'allais dire professionnelle du bâtiment, c'est plus les l'ossature bois, les briques de parement. Donc c'est pas la manière dont on construit en France. Et je suis tombé en Angleterre parce qu'on venait d'acheter le point P anglais, Jewson. D'accord. Et on en a confié la responsabilité en 2000. Et donc là, j'étais complètement donc en charge de cette activité. Donc un négociant de matériaux de construction.
D'accord.
Et j'ai sillonné l'Angleterre dans la campagne anglaise, aller voir les 600. J'en ai vu plus de 400 des agents. En 2 ans, des agences de Jewson. Et donc j'ai appris ce que faisaient les artisans anglais avant, d'un point de vue professionnel, avant les artisans français.
Rigolo, ça, parce que du coup, c'est à la fois un ancrage, démarrage international, ce qui
exactement
vous prédestinait à quelque chose, en fait, un spectre assez large, et en même temps, déjà d'entrée de jeu par le petit bout du terrain.
Ah oui,
parce que
c'est vraiment, c'est le métier de, vous voyez, c'est l'équivalent de pointer en Angleterre. Donc je sillonnais les agences et vérifiais. C'était beaucoup du management, ce que je faisais. Mais donc, du coup, très au contact avec les artisans. Alors, les problématiques sont différentes. Hein, les plombiers...
Absolument. Donc, un spectre très complet depuis l'industriel, finalement, jusqu'au concret et à la mise en œuvre même du plus petit faiseur.
Voilà. Donc, j'avais commencé industriel dans des métiers très industriels chez Saint-Gobain. Après, j'ai pas mal par le négoce. Et puis après, quand j'ai eu des responsabilités peu générales chez Saint-Gobain, donc j'ai l'ensemble du spectre de ce que fait Saint-Gobain. Voilà. Et alors bon, d'autre, si je peux, je sais pas si c'est lié, mais quand même un peu. C'est que quand je réalise avec ma femme depuis 20 ans, et je pense à l'Angleterre, on a fait tous les ans des travaux, on n'a pas arrêté de retaper des maisons dans différents endroits. Donc à titre personnel, le bâtiment, la rénovation, ça me parle.
Oui, c'est ça, parce que c'est ce que j'allais dire, il y a quelque chose de très, très personnel, c'est un secteur auquel vous êtes vraiment attaché.
Ouais. Oui, parce que j'aime ça, c'est concret. On travaille avec des gens qui sont souvent assez indépendants, hein, et des petites structures. Et donc c'est aussi un contraste avec l'entreprise industrielle large de Saint-Gobain. Donc et je trouve que la chaîne de valeur ajoutée dans le bâtiment est très intéressante en plus, parce que entre ça va de l'architecte, si vous voulez, à l'artisan, hein, et avec la montée de choses nouvelles, avec Internet depuis une dizaine d'années, on voit apparaître quelque chose qui est nouveau, notamment dans la rénovation, mais c'est que le client, j'allais dire l'usager, qui avant ils n'avaient pas grand-chose à dire, l'usager, devient prescripteur.
Ah oui,
donc il faut arriver à lui parler. Donc ça change pas mal les choses.
Oui, parce qu'avant c'était un monde un petit peu d'experts et on disait aux gens c'est ça qu'il vous faut. Maintenant ils viennent s'infiltrer dans la vision technique presque.
Exactement,
hein,
technique.
Très loin.
Ah oui, vous avez des gens qui ont un peu de temps quand ils ont l'artisan qui vient faire les travaux chez lui. La veille ils ont vu un YouTube et ils savent aussi bien, et même quelquefois mieux que l'artisan, en tout cas sur le papier, comment il faut faire.
Ça c'est des choses que les gens qui nous écoutent doivent reconnaître. De leur parler. Alors effectivement, depuis toutes ces années, vous avez vu beaucoup d'évolutions dans le secteur du bâtiment.
Ouais.
Vous l'avez dit, il y a une révolution numérique.
Ouais.
Là, depuis quelques temps, on est en plein dans la révolution environnementale. C'est toujours en cours, hein, d'ailleurs. Hein. C'est des choses qui sont en révolution, j'ai envie de dire, depuis pratiquement les années 70.
Alors sur le sujet environnement, c'est un peu plus récent, hein, mais je pense que c'est probablement le sujet le plus important, qui a le plus changé par rapport à quand j'ai commencé, honnêtement. Comme je me souviens, en 2000 en Angleterre, ces sujets-là, on n'en parlait pas beaucoup. Et pourtant, l'Angleterre est un petit peu en avance par rapport à la France. Enfin, il a souvent été dans tous ces sujets-là un peu en avance. C'est le premier pays hein, où on était, où dans les appels d'offres publics, par exemple, il fallait montrer des lettres de créance sur le plan environnemental.
D'accord.
Je pense que l'environnement, c'est majeur, parce que si vous voulez, les émissions de CO2, 40% dans le monde, elles viennent du secteur du bâtiment, au sens large. Le bâtiment, c'est 50% des ressources naturelles. C'est 40% des déchets en tonnes aussi. Donc on voit bien que avec l'urbanisation qui s'accélère, le monde du bâtiment est au cœur des sujets environnementaux. Et comme les sujets environnementaux sont au cœur des enjeux de la planète pour l'opinion publique, qui sont devenus majeurs, et la pandémie a accéléré cette prise de conscience. Hein. Avec la pandémie, santé, environnement, planète, c'est lié.
Oui.
Donc compte tenu du poids du bâtiment dans les sujets environnementaux et climatiques, il y a une vraie nécessité de que le bâtiment joue son rôle. Et en plus, on sait dans le bâtiment, on sait faire.
Hein. Donc le problème, c'est qu'on répète vraiment souvent,
et donc,
que dans le bâtiment, on sait faire. Ben, c'est aussi pour ça qu'il y a une pression autant
exactement.
Sur le secteur du bâtiment, c'est parce que c'est le secteur qui sait régler les choses.
Technologiquement, si vous voulez, alors Saint-Gobain, on n'arrête pas d'innover, de trouver de nouvelles choses, mais globalement, si vous voulez, on sait faire des maisons passives, on sait la RE 2020, on sait faire tout ça. Donc le problème, c'est la mise en œuvre. C'est là que, là, par contre, c'est plus compliqué, parce qu'il y a toute une filière qui doit se former, qui doit apprendre, qu'on fait pas pareil dans les différents endroits, et il faut aligner tout le monde. Hein. La fragmentation de la prise de décision dans le secteur du bâtiment, hein, parce qu'en fait, entre l'architecte, je disais, le bureau d'études, quand c'est des chantiers un peu plus compliqués, l'industriel, le négociant, l'utilisateur final, hein, et bien sûr les entreprises, avec quand c'est des chantiers un peu plus compliqués, des chaînes de sous-traitants, tout ça, ça fait beaucoup de monde. Alors on peut dire avec la maquette numérique, tout le monde va travailler ensemble, mais c'est pas encore, ça se passe pas dans énormément de chantiers. Et donc la prise de décision est compliquée. Hein. La prise de conscience de ce qu'il faut faire concrètement sur un chantier pour avoir une bien meilleure efficacité environnementale, il y a encore beaucoup de travail. Donc on sait sur le plan théorique, c'est beaucoup plus facile que d'autres secteurs. Par contre, sur le plan pratique, c'est encore compliqué. Donc pour moi, c'est ça. Le plus grand enjeu, c'est qu'à la fois, si vous voulez, aujourd'hui, le secteur du bâtiment est une bonne partie du problème. Et à la fois, c'est là où il y a les solutions les plus faciles. Techniquement, et donc on voit bien que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, le bâtiment est au cœur des enjeux. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, si vous voulez, avec l'accélération au moment de la pandémie. Hein, le plan européen, le plan français auquel vous avez pas mal contribué. Et on voit bien que le bâtiment est au cœur de ces enjeux.
D'ailleurs, j'y pense en vous entendant. Vous avez énormément œuvré pour que, notamment lors de la COP26, on ait une journée spéciale dédiée au bâtiment. Je sais que ça vous tenait à cœur.
Oui,
un sujet. Vous avez passé le message il ne faudrait pas que ça s'arrête d'ailleurs, cette journée spéciale dédiée au bâtiment, au secteur bâtiment dans la COP, parce que finalement cette vision de pierre angulaire des sujets du secteur bâtiment, elle avait été un peu oubliée quand même.
Et oui, elle a oublié parce que si vous voulez, pourquoi ? C'est parce que je crois qu'il y a une grande fragmentation des acteurs.
C'est ça. Et du coup, la filière ayant du mal à parler d'une seule voix d'unité, elle se laisse des fois un peu donner des avis par d'autres, même extérieurs à elle parfois,
exactement.
Et on la pousse parfois un
peu.
Donc c'est important pour vous que la filière elle arrive
ça se prenne en main sur ces sujets-là. Alors ça a commencé, mais c'est pas très facile parce que si vous voulez, la filière, c'est des acteurs qui n'ont pas sur tous les sujets exactement la même manière de voir les choses.
Hein. Mais alors ça, c'est parfaitement vrai. Mais donc du coup, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est surtout un challenge finalement, pas de compétences, parce que j'ai l'impression que les compétences, on les a dans le secteur bâtiment. Et quand on parle aujourd'hui beaucoup de formation, les gens, ils ont l'impression qu'on est en train de leur dire qu'ils n'ont pas fait leur boulot comme il faut jusqu'à présent. Donc, je ne crois pas que ce soit ça le sujet. Mais quand on parle de formation, en fait, on travaille autrement, en fait, que ce qu'on a fait autrement. Ce n'est pas techniquement le geste de la main qui est mis en cause.
C'est l'alignement des acteurs, je crois,
un des gros sujets.
C'est la coopération. En fait.
En fait, il faut se former à la coopération, ouais. Que ça, on n'a pas beaucoup fait, et pas trop pointer du doigt non plus une logique de mauvaise pratique, etc. Parce que parfois, vous voyez ce que je veux dire, du terrain, j'entends les artisans, et vous les entendez comme moi, qui des fois se sentent un peu acculés avec une vision qui serait... on me dit que je fais rien comme il faut, mais moi j'ai toujours travaillé comme ça aujourd'hui. Et on a l'impression qu'on est en train de presque leur tirer le tapis sous les pieds. Alors que moi j'ai l'impression qu'ils savent, comme vous l'avez dit en préambule, on sait tout faire dans le secteur bâtiment. Aujourd'hui on a un challenge dans la mise en œuvre, dans l'articulation, dans la coopération.
Oui, mais c'est aussi un peu compliqué parce que regardez, les matériaux, quand on regarde le CO2 dans le bâtiment, il vient de deux choses. C'est l'utilisation du bâtiment. Donc, on a trop de chauffage ou trop de climatisation après. Donc, ça, c'est la manière dont on construit. Puis, il y a aussi, et ça, c'est en train de devenir de plus en plus important. Nous, on y travaille beaucoup. Et avec la REV 2020, on a mis l'accent là-dessus. L'ensemble des matériaux qui sont utilisés dans le bâtiment, eux-mêmes, ils ont un contenu en carbone. Ouais. Donc, il faut le réduire. Ça, c'est des choses dont, je pense, une bonne partie de la filière ne calculait pas, n'avait pas en tête.
Oui, c'est pas encore totalement intégré.
Et donc ça, c'est pas encore intégré.
Et
donc, si vous voulez, nous, par exemple, chez Saint-Gobain, on promeut beaucoup ce qu'on appelle tous les modes de construction légères, hein, parce qu'ils sont intrinsèquement moins... Ils ont un contenu carbone qui est bien meilleur, mais... Je ne suis pas sûr que l'ensemble de la filière est en tête encore aujourd'hui, parce que c'est compliqué, hein, les analyses de cycle de vie, etc.
C'est une révolution. Ça vient d'arriver.
Donc aussi. Ça, si vous voulez, je pense que cet aspect-là, il y a encore, vous disiez, sur le plan de formation, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas faites.
Oui, sur cette partie-là, effectivement.
Par contre, sur la manière, à matériaux donnés, la manière de bien construire pour avoir une isolation correcte, je pense que ça, on a fait d'énormes progrès depuis 15 ans. En France, depuis le Grenelle de l'environnement, je pense qu'on a commencé. Tout ça, c'est progressivement. Et donc ça, je pense que les formations, toutes les RGE, les gens savent à peu près faire. Simplement, maintenant, il faut qu'ils s'intéressent aux matériaux qu'ils utilisent et éventuellement pour en changer. Donc, du coup, ça repose sur une série de problèmes.
Ça va reposer des sujets, mais pour le coup, moi, je les sens vraiment prêts à, en fait.
Oui, je crois. Il y a une prise de conscience qui est forte, mais c'est techniquement pas forcément très compliqué, mais il y a beaucoup de choses.
Voilà. Et c'est vrai que c'est sûr qu'on est sorti de la période où avant c'était un peu comme chez le boucher, j'ai un peu plus de béton, je vous mets 200 grammes de plus, allez, j'en mets un peu plus.
Hier,
c'est fini ça.
Hier, j'ai été visiter Chryso, qui est une société magnifique que Saint-Gobain vient d'acheter, qui fait des adjuvants. Et on voit ces adjuvants, c'est des petites liquides, j'allais dire de perlimpinpin, qu'on rajoute et qui changent complètement les propriétés, qui décarbonent le béton, en fait.
C'est sûr, là, il y a de l'innovation.
L'innovation,
quand on dit aujourd'hui que le béton c'est terminé, à mon avis, on a des marges.
Mais on va réduire beaucoup. Le béton bas carbone, c'est pas quelque chose dont on parlait il y a quelques années.
Non.
Donc il y a encore beaucoup de choses nouvelles.
Mais complètement. C'est vrai qu'on a énormément d'innovation et de créativité qui se développe aujourd'hui, mais notamment grâce à cette révolution environnementale qui ouvre des possibles qu'on n'avait pas avant.
Hein,
c'est certain. Alors, parmi les révolutions, on a quand même celle, on a eu plusieurs, on a eu la période, donc vous l'avez dit, la rénovation énergétique qui prend une place plus importante par rapport au neuf, on a le zéro artificialisation net qui nous pousse en disant il va falloir réduire ce rythme effréné d'artificialisation des sols pour garder de la biodiversité et la protéger, il va falloir réintroduire de la biodiversité en ville, et puis la période Covid elle a donné un sentiment un petit peu que les gens voulaient tout d'un coup fuir les villes. Alors vous avez récemment publié un livre sur le défi urbain, retrouver le désir de vivre en ville. Ça veut dire quoi? Les villes n'ont plus la cote.
Si vous voulez,
les transformer durablement. Comment ça se passe?
D'abord, si vous voulez, il y a un paradoxe entre le fait que la ville, pendant des millénaires, et je raconte l'histoire des premières villes, ça a été le lieu de la civilisation, de la fête, du commerce, de la richesse. Et puis avec la pollution, elle est arrivée en ville. On parlait du CO2 et avec le la pandémie, en plus, la contagion qui est plus facile en ville, et le télétravail qui a aidé, en montrant qu'on n'était pas forcément besoin d'être... Tout. Il y a eu un peu une anxiété sur la ville.
Ouais, hein.
Donc la ville... Et moi, je crois, quand on voit l'urbanisation va continuer, on aura 6,5 milliards de personnes qui seront en ville en 2050, contre 4,5 milliards aujourd'hui, 650 millions en 1950. Hein, donc c'est, l'urbanisation, elle va pas... Moi, j'y crois pas qu'on va repartir. Et donc, il faut réenchanter la ville. Mmh. Et il faut arriver à ce que la ville, et on revient au sujet du CO2, que la ville soit un contributeur à un meilleur environnement et en même temps qu'elle soit agréable, confortable à ville, donc à vivre. Donc il faut
confortable
de la nature.
À ville.
Il faut remettre de la nature dans la ville. Donc moi je pense qu'il faut, effectivement, on peut densifier dans certaines villes, pas forcément celles qui sont déjà les plus denses. Il faut reconstituer des quartiers en repensant la mobilité. Enfin, il faut réenchanter la ville. Il y a beaucoup de maires qui ont commencé ce travail. C'est pas toujours facile parce que quelquefois il faut revoir les frontières juridiques. Regardez la situation à Paris. On voit bien que si on regarde que ce qui est à l'intérieur du périphérique, on va pas y arriver. Il faut.
Est-ce que vous imaginez qu'on pourrait se retrouver avec parce qu'on sait que, par exemple, les villes moyennes, elles ont souvent eu un effondrement sur elles-mêmes. Les centres-villes se sont vidés. Elles sont allées sur la périphérie.
Là, on est en train de repartir dans l'autre sens. Moi, je crois beaucoup les opérations, l'action cœur de ville, c'est un truc formidable. Ça,
alors ça reconquérit justement les villes moyennes. Ça vraiment en redonnant un dynamisme. Donc ça, je partage. Je pense que c'est un nouveau dynamisme. Mais est-ce que ça veut dire que potentiellement, les logiques un peu plus grandes, les métropoles, etc., pourraient subir des phénomènes un peu similaires de gens qui iraient déserter la ville pour aller vers des périphéries, potentiellement ces fameuses villes moyennes.
Alors,
qui sont peut-être
c'est une
le nouvel Eldorado, c'est ça l'histoire ?
Mais moi je pense aussi que les grandes métropoles, elles vont devenir une somme de villes moyennes. C'est-à-dire qu'il va falloir réduire la circulation permanente dans ces grandes villes.
Potentiellement des quartiers avec des identités un peu plus propres qui vont se reconstituer
Je crois qu'on va aller dans cette direction-là.
Oui, c'est vrai, et puis ça va dans le sens
plus d'autonomie, si vous voulez.
Beaucoup aujourd'hui, on passe beaucoup de l'échelle de la rénovation quartier, par exemple, à la rénovation, la rénovation bâtiment, à la rénovation quartier, où l'aménagement a été pensé un peu, enfin, un peu pensé d'ailleurs, l'aménagement. Et maintenant, on a vraiment l'impression de plus en plus de penser plus large.
Je pense que c'est ça. Alors, écoutez, la pandémie a montré à beaucoup de gens, notamment ceux qui sont dans les villes, que passer 2 heures dans les transports en commun tous les jours, si on peut le faire que 2-3 jours par semaine tous les jours, on n'est pas plus mal. Hein. Et donc, du coup, on peut habiter pas forcément tout près, mais à condition de réduire ces transports complètement fous. Donc ça va... Et tout ça, ça va dans le sens, si vous voulez, c'est ce que le Carlos Moreno, associé, appelle la ville du quart d'heure. Alors, c'est un concept que je trouve intéressant parce que c'est l'idée de dire quand même qu'il faut rapprocher les différentes fonctions principales les unes des autres. Et c'est ça qu'on a dans une ville moyenne, si vous voulez.
Et c'était ce qu'on avait fait un peu à l'envers il y a quelques années en arrière, où on avait des fonctionnalités totalement séparées.
La conception des villes nouvelles du général de Gaulle, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
On se rend compte qu'effectivement, ça ne marchait pas. Et du coup, recréer aujourd'hui... Ça, c'est un enjeu et c'est un challenge parce que typiquement, il y a la nécessité de... Effectivement, je partage complètement la vision de la ville. Elle va rester désirable et elle va redevenir désirable autrement. Il y a des choses qui sont en train de se passer.
Il y a des choses à faire pour ça.
Mais qui sont en train de se passer dans les villes. Il y a une réinvention. Moi, je le vois. Il y a quand même maintenant beaucoup de villes très, très écolo qui sont en train de se mobiliser là-dessus. Il y a un désir de plus de nature. Mais de fait, cette vision un petit peu des villes qui peuvent devenir un peu autarciques, elles sont en train de changer leur vision aussi. Ces villes métropoles, quand elles sont très tournées sur l'écologie, elles freinent les mobilités. Elles peuvent des fois avoir une vision de se fermer sur elles-mêmes. Ça, c'est un truc...
Ça, c'est pas bien.
Non, et je pense que c'est un risque.
Je suis d'accord.
Il faut garder ces villes reliées et faire en sorte qu'elles continuent de nourrir les territoires qui sont autour, vraiment de manière importante. Mais dans le même temps, je pense que la partie plus périphérique, il faut continuer à la penser. Aujourd'hui, une des inquiétudes qu'on peut avoir dans le territoire, quand on parle aujourd'hui de zéro artificialisation nette, c'est le territoire qui nous disent, alors ça veut dire que notre développement, il est bloqué, on va plus rien construire de neuf. Si mon village, il a tant de bâtiments, c'est fini, je ne peux plus exister.
Il faut reconquérir le centre du village et le centre-ville, moi, je crois.
Ouais, et du coup, ça, là aussi, ça recrée un dynamisme. Alors, c'est pas figer le territoire qu'il est, c'est lui donner des possibilités de donnant ordonnance. C'est-à-dire ici, on va rendre à la nature peut-être tel espace, et ici, au contraire, on va pouvoir justement compléter un développement qui est nécessaire. Je crois que c'est dans les deux sens, la réversibilité finalement.
Mais pour reprendre un débat qu'il y a eu récemment, si vous voulez, sur les banlieues pavillonnaires à l'américaine. On est devenu un peu américain. Tous les Français rêvent de ça, mais c'est pas forcément, ils ont pas forcément raison de vouloir ça.
Non, parce que
ça.
Même les Américains, je crois qu'ils en reviennent.
Et ils en reviennent.
Okay, il faudrait qu'on invente un truc.
Et donc, avoir des petits jardins en étant dans le centre-ville, et faire ses courses à pied, par rapport à tous ces centres commerciaux, c'est probablement, à mon avis, dans 30 ans, on sera revenu à ça. On a été trop dans une direction assez américaine, en fait.
Et du coup, c'est vrai que ça nous emmène à repenser beaucoup de sujets. C'est quand même une période extrêmement enthousiasmante. Moi, quand je vous entends parler, j'ai toujours
les
étoiles dans les yeux qui pétillent. Il y a de l'envie.
Il y a plein de choses à faire. Non, je pense que et pour les métiers du bâtiment, c'est formidable.
Ouais. Alors justement, sur la question dans ce moment, on a beaucoup d'enjeux d'attractivité des métiers. Il faut qu'on puisse recruter parce qu'en fait, tous ces enjeux appellent des compétences des gens qui viennent renforcer les équipes actuellement installées. Et ça, on a un peu du mal. Alors, comment
c'est
qu'on
ça,
peut
si
travailler
vous voulez.
Sur l'attractivité.
Écoutez, c'est pour nous aujourd'hui, si je prends Saint-Gobain, c'est notre sujet principal. C'est que nos clients. On n'en a pas assez, quoi, si je puis dire, ou qu'ils n'ont pas assez de monde. Et donc, il faut redonner, et je trouve que les sujets dont on vient de parler, c'est formidable, il faut redonner plus d'attractivité, de noblesse à ces métiers du bâtiment qui ont changé aussi. Parce que tous ces sujets dont on a parlé, d'utilisation des matériaux, de réfléchir aux nouveaux matériaux, de repenser tout ça, les métiers du bâtiment, ils ont changé, ils sont en train de changer. Et donc, il y a un besoin aujourd'hui de remontrer cette attractivité, de renouveler l'attractivité de ces métiers qui sont des très beaux métiers.
Alors le temps file, je le regrette, mais l'émission touche déjà à sa fin. On conclut toujours cette émission par un mot pour la jeunesse, mais je crois que la transition sera simple avec ce que vous venez de dire.
Oui, je pense que c'est des opportunités formidables. Il y a plein de numérique, il y a plein de d'environnement. Les jeunes sont très sensibles à ces sujets, encore de recherche de sens, de contribuer à l'environnement. Je pense que le bâtiment, c'est un endroit formidable pour contribuer à l'amélioration de l'environnement. Donc voilà, on va recruter beaucoup chez Saint-Gobain cette année, et j'espère que nos clients, les artisans, ans vont pouvoir recruter plus. Mais moi, mon message pour les jeunes, c'est que c'est des beaux métiers dans lesquels il faut aller.
Mais alors, j'espère que le message sera entendu. Merci beaucoup, Pierre-André de Chalandard, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Un bâtiment avec Marjolaine Meignier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.